René Lavergne avec vous sur Radio Campus 106,6 FM pour l'émission que vous retrouvez chaque semaine entre 16h et 16h30, une émission consacrée à l'Université de Lille, Campus Lille Info. Nous allons parler aujourd'hui d'un dispositif que vous connaissez sans doute, si vous êtes étudiant ou parent d'étudiant, ça s'appelle Erasmus. Erasmus+, on va en particulier en parler tout à l'heure, et on est dans un cadre assez particulier aujourd'hui, puisque on est dans la semaine internationale, International Student Week, qu'on va préparer et présenter dans cette émission. Avec un concours notamment, un concours Instagram, donc je suppose de photographie, voire même de vidéo, pourquoi pas. Donc voilà, l'International Student Week, avec aujourd'hui nos invités du service de développement européen et à l'international de l'Université de Lille, Monsieur Antoine Sujita, bonjour Antoine.
Bonjour.
Également Mathilde Modène, bonjour.
Bonjour.
Et Arilis Ardiles.
Ardiles, c'est ça, bonjour.
Bonjour. Alors, donc, on s'était vu l'année dernière déjà, oui. Donc on avait un petit peu parlé de ce qu'est Erasmus. Alors, tout à l'heure, je me posais la question, qu'est-ce que c'est la différence entre Erasmus et Erasmus+, qui pourrait me dire?
En fait, Erasmus+, c'est Erasmus, c'est le nouveau nom du programme depuis 2013. Le programme avait été refondu pour intégrer tous les différents programmes, et donc pour signifier ce changement, ils l'ont appelé Erasmus+.
On avait tendance à considérer au départ qu'Erasmus était un dispositif strictement européen. Ça a beaucoup évolué.
Oui, maintenant, en fait, on a des actions aussi auprès des pays hors Europe, donc notamment avec les mobilités internationales de crédit. Donc mon collègue ici pourra l'expliquer, c'est lui qui s'en occupe. Et oui, on développe la coopération aussi avec les pays en dehors de l'Union européenne.
Alors, quels sont les pays, on va dire, un peu atypiques, hein, qui sortent de l'Europe, par exemple, Antoine Sujita?
Actuellement, l'Université de Lille, on a des partenariats, alors, pour citer l'atypique, avec le Kyrgyzstan, après plus le voisinage européen de l'Est, l'Arménie, l'Ukraine, maintenant depuis cette année, Algérie, Maroc, la Chine, enfin voilà, donc il y a vraiment une... On essaye en tout cas de développer, c'est pas des programmes faciles à obtenir, hein, mais donc on a des financements notamment avec des pays hors Europe.
C'est vrai que nous avons à Radio Campus des étudiants Erasmus qui interviennent notamment dans la matinale de Radio Campus, qui sont par exemple en Irlande ou bien même en Roumanie ou dans d'autres pays. On en a d'autres qui sont en Corée du Sud également. Donc on voit bien que des jeunes, pas tous, on va peut-être voir un petit peu la nuance, sont intéressés par des études à l'étranger. Alors, quel est l'intérêt de faire des études à l'étranger?
Bah, je peux parler de mon expérience personnelle. Bah, c'est toujours enrichissant. C'est une opportunité en fait pour découvrir une autre culture, pour découvrir un autre système, pour partager en fait des connaissances. C'est vraiment un échange dans le sens large du terme. C'est échange culturel, linguistique, pédagogique. Donc c'est vraiment enrichissant de partir à un autre pays et découvrir tout ce que le pays peut nous donner.
Est-ce qu'il y a plus de Français étudiants qui vont à l'étranger faire des études dans le cadre d'Erasmus que l'inverse? Comment on peut définir la proportion?
Oui, on envoie plus d'étudiants qu'on en accueille.
Et il y a une raison?
Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants français en tout cas qui sont intéressés et qui ont aussi peut-être une question financière où on a peut-être plus de facilité nous en tant que Français à partir vers l'international, alors que peut-être des pays, pour citer par exemple l'Amérique latine ou l'Asie, où il y aura peut-être plus de difficultés pour que des étudiants viennent chez nous. Donc ça peut peut-être s'expliquer par ça. Après, il n'y a pas que ça. Forcément, il y a aussi des dispositifs, hein, comme en Europe notamment avec le programme Erasmus+, qui aide. Mais voilà, ça peut être un argument.
Est-ce qu'il y a des bourses pour les étudiants Erasmus?
Oui, donc il y a la bourse Erasmus de base, et c'est justement ça aussi qui aide les étudiants à bouger. Il y a un dispositif de l'État qui aide les boursiers sur critères sociaux. Et il y a aussi une aide du Conseil régional Hauts-de-France.
Donc, a priori, qu'est-ce qui bloquerait un étudiant français au-delà du problème financier, puisque là, il y a des aides, visiblement. Hein. Est-ce qu'il y a des problèmes de frilosité de certains étudiants à quitter la famille ou à quitter le pays ou à avoir peur d'aller dans des endroits un peu compliqués? Est-ce que les endroits avec qui vous avez signé des partenariats, les universités partenaires, sont sécurisés?
Oui, on n'envoie pas d'étudiants dans les pays à, on va dire, zone à risque. D'ailleurs, pour citer un exemple, c'est vrai qu'à partir de, enfin, depuis l'année dernière, on n'a plus autorisation d'envoyer des étudiants en Turquie actuellement. Donc, on essaye de prendre en compte les informations du ministère des Affaires étrangères pour s'assurer que dans tous les cas, tous les étudiants que partent en mobilité soient bien en sécurité et chez des partenaires de confiance. Et donc, on essaie de profiter justement de la semaine internationale pour essayer de promouvoir cette mobilité, qu'elle soit entrante ou sortante, et ces échanges interculturels.
Mmh. Alors, c'est vrai que le risque d'entrer dans une ambassade peut se poser dans tous les pays maintenant, visiblement.
Donc, apparemment, c'est l'actualité.
Alors, donc, pour ces étudiants qui hésitent encore, on peut peut-être déjà dire, est-ce qu'il y a des moments particuliers pour s'inscrire, pour participer à ces dispositifs, ou est-ce que c'est toute l'année qu'on peut candidater?
Non, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. Donc justement, en fait, la semaine internationale, c'est aussi un de ses objectifs, c'est de renseigner les étudiants sur les procédures à entamer dès novembre. Et donc surtout pour les destinations hors Europe, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Et un an, oui, généralement, un an à l'avance, c'est le mieux.
Et donc, une fois que vous avez les candidatures, après, vous essayez de voir les universités éventuellement partenaires, ou vous avez déjà des quotas qui sont préétablis?
Oui, on a des places préétablies pour chaque accord avec chaque université. Et après, l'étudiant, dans son dossier de candidature, peut déjà faire trois vœux de destination. Et en fonction de son dossier, des autres demandes, on voit ce qu'on peut lui attribuer.
Il n'y a pas de changement de logiciel cette année?
Non, ça devrait aller cette année.
Ouais. Ça devrait aller, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies, pour le coup, pour être retenu plus facilement que d'autres dans les choix, par exemple, des lieux d'études? Est-ce qu'on dirait, il y a plus de chances si la demande était faite pour aller dans tel pays, ou s'il y a trop de demandes pour certains pays, dire, oh là là, ça va être compliqué?
Oui, il y a, enfin, pour citer le hors Europe, mais après il y a aussi la compétition entre guillemets entre étudiants en Europe aussi, que pour citer par exemple les États-Unis ou le Japon, pour lesquels les étudiants ont vraiment une envie de partir. Donc on reçoit plus de candidatures que de places disponibles. Donc les résultats académiques, c'est bien sûr très important pour voir que l'étudiant est assez indépendant. En tout cas, il pourra s'en sortir, et c'est aussi une preuve de qualité de l'université. Si on envoie des étudiants qui sont moyens, ils ont moins de chances de réussir, et du coup c'est aussi l'image de l'université à l'international qui peut être détériorée. Donc on sélectionne sur le niveau académique, sur le niveau de langue, pour s'assurer que les étudiants puissent bien comprendre, et la motivation en général.
Est-ce qu'il y a un troisième vœu en termes de choix de pays qui pourrait presque garantir le succès de la demande?
Oui, si on, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui partent au Brésil pour des problèmes de langue. Donc après, c'est toujours avec des conditions. Donc il peut y avoir des endroits où il y en a plus de place et moins d'étudiants, mais c'est encore une fois c'est conditionné par des compétences linguistiques. Partir en Russie, par exemple, c'est aussi des possibilités qui sont moins proposées, enfin, ou moins retenues par les étudiants. Mais donc ça peut, bien sûr.
Est-ce que le Mexique fait partie des destinations?
Oui, c'est vrai qu'on a encore relativement assez de place au Mexique. Ça dépend des partenaires, où il y a des universités qui sont peut-être mieux classées, du coup les étudiants vont directement là-bas, mais les étudiants qui parlent espagnol, en général, il y a encore des places pour le Mexique, donc candidater.
Alors, je parle du Mexique parce qu'il y aura bientôt Eldorado, donc le gros événement lillois, on va dire, et plus largement maintenant régional. organisée par l'île 3000 sur le thème Eldorado, donc avec le Mexique comme invité. Donc j'ai vu l'ambassadeur l'autre jour, il était très heureux que ça se fasse, parce que vous savez que c'est un peu compliqué pour que le Brésil, en termes de culture, puisse venir en France. Ça a été compliqué, parce que les deux ambassadeurs, les deux pays, à un moment donné, n'étaient plus d'accord, il y a 2-3 ans de ça. Et là, bon, la ville de Lille a accueilli pratiquement le projet tel qu'il était destiné à Paris, à Lille, et donc on va avoir des choses fabuleuses. Donc voilà, peut-être pour les étudiants, une occasion déjà de se pencher sur la culture du pays avant de partir. Je pense que ça peut être une belle occasion. On ne peut que proposer aux étudiants déjà d'avoir une approche interculturelle du pays d'accueil.
Bah en fait, pendant la semaine internationale, du coup, on propose plusieurs activités qui sont vraiment liées à plusieurs pays, pas seulement que les pays européens qui rentrent dans le programme Erasmus, mais vraiment, en fait, plusieurs pays partenaires pour qu'ils puissent, en fait, comprendre l'idée de partir en échange, en fait, des activités culturelles, des activités sportives, vraiment tout autour de l'international, qui permettra, du coup, à l'étudiant qui va partir d'avoir une idée plus ample, en fait, de l'idée de l'échange. Et pour l'étudiant, en fait, qui arrive à Lille et qu'on va accueillir, du coup, d'avoir ce sens de partage, et, enfin, dans les deux sens. Donc, si, après, c'est vraiment, enfin, une idée très générale, parce qu'on propose plusieurs idées. Par exemple, l'une des activités pour les étudiants, enfin, c'est partage ma table, qu'on parlait tout à l'heure, bah, justement, de découvrir en fait une culture à travers la cuisine. Bah, du coup, en fait, on propose aux étudiants internationaux de s'inscrire et du coup de partager un repas dominical chez les habitants de la région et bah, dans ce cas-là de la métropole lilloise. Et du coup, en fait, découvrir des plats typiques de la région, mais aussi ça permettra en fait aux habitants d'échanger autour du langue étrangère, de découvrir en fait d'autres cultures, pourquoi pas d'autres repas. Donc c'est vraiment un moment d'échange qui sort en fait du côté pédagogique, mais qui permettra aussi aux étudiants en fait d'apprendre une nouvelle culture.
Est-ce que vous avez un retour des étudiants qui ont fait leurs études Erasmus, on va dire, à Lille, hein, et qui sont un peu évalués sur la façon dont ils ont été accueillis, comment ça s'est passé pour eux, est-ce qu'ils ont été vite intégrés, est-ce que vous avez des retours de ça ?
On a mis en place un système, du coup, un questionnaire au retour de mobilité pour les étudiants, qui est du coup pas forcément, sur la réussite, est-ce qu'ils ont forcément validé leur crédit, etc., ou les notes, mais c'est plus sur, en effet, les procédures de visa, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour un visa pour leur Europe, le logement, est-ce que c'est l'université partenaire qui s'en occupe, ou est-ce que c'est eux, est-ce qu'ils ont des bons plans. Donc ce type d'informations, en fait, après, nous, on les retransmet aux étudiants qui ont été présélectionnés pour les années suivantes, pour essayer de faciliter encore une fois l'intégration des étudiants dans l'université partenaire.
Donc pendant des années, on a dit que le Nord, il faisait pas beau, il pleuvait, enfin, c'était terrible comme condition. Là, visiblement, vous avez fait quelque chose pour que ça change, bravo. Est-ce que ça peut changer aussi la motivation des gens qui sont plus au sud, qui ont peur d'affronter le froid, les grands froids et les grandes pluies de notre région ?
Bah, en fait, je me souviens quand je suis arrivée à Lille, il y a 3 ans, et je me souviens, j'avais entendu une phrase qui avait dit qu'en fait, les gens du Nord ont la chaleur dans le cœur. Et c'est vrai, enfin, même s'il fait froid, en fait, il y a beaucoup d'activités. Lille est une ville très accueillante. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants internationaux. Il y a beaucoup d'étudiants français qui ont cette ouverture à l'international. Donc, je crois que, enfin, en fait, le climat, même s'il peut jouer, il y a d'autres villes, en fait, peut-être où il fait très, très chaud. Il y a d'autres villes, en fait, où il pleut beaucoup, beaucoup. Donc, à mon avis, le climat, ça joue. Mais c'est plutôt, en fait, le charme de la ville ou de la région qui va vraiment, enfin, jouer pour faire le choix. Après, les étudiants, ils ont des intérêt peut-être linguistique ou de découvrir un pays ou l'autre. Donc du coup, peu importe le climat, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'ils sont intéressés par exemple par le Mexique, par le Brésil, la Chine ou quoi que ce soit, bah, du coup, ils vont aller découvrir par eux-mêmes s'il fait chaud et s'il fait froid.
Alors, on va parler maintenant d'un concours, un concours dans le cadre de cette International Student Week. Qui présente ce concours ?
Voilà. Bah, du coup, en fait, c'est la nouveauté de cette année pour l'International Student Week. On lance pour la première fois un concours Instagram. Comme vous l'aviez dit, enfin, c'est un concours photo et qui a comme thème la mobilité comme opportunité des partages des cultures. Et donc, en fait, pour découvrir toutes les infos du concours, je vous invite du coup à aller sur notre compte Instagram. Donc, c'est International Univ Lille. Et du coup, là, vous allez trouver en fait toutes les conditions de participation. Et le concours, en fait, il s'appelle Culture en Culture, justement pour représenter cette idée de partage des cultures, d'échange. Et justement, il a été lancé pendant les Erasmus Days le 12 octobre et fini le 16 novembre. Donc, vous avez encore beaucoup de temps pour y participer. Et donc, participer, c'est assez simple. Donc, n'hésitez pas à découvrir en fait quelles sont les conditions pour s'inscrire.
D'accord. Une fois qu'on a participé au concours, il se passe quoi après ?
Bah, une fois que vous avez participé au concours, déjà, on va voir en fait toutes les publications qui ont utilisé le hashtag Culture en Culture. Et donc après le 16, on fait avec un jury, on va choisir en fait une photo gagnante. Et une photo gagnante selon le jury, et une photo en fait qui va gagner, c'est le prix coup de cœur. Donc c'est-à-dire le plus de likes sur la photo. Et donc après ça, à la soirée de clôture des LISW, du coup on va annoncer qui sont les gagnants des 5 voyages qu'on propose et d'autres prix qui sont liés aussi à l'international.
Voilà, donc ils seront déjà un peu riches. Est-ce qu'ils seront célèbres, les lauréats ?
Bon, ils vont l'être pour l'instant. Mais oui, l'idée, c'est de, en fait, on va les connaître à la soirée de clôture. Mais l'idée, c'est vraiment d'y participer et de faire une publication assez sympa pour que, elle puisse avoir la chance de gagner.
Vous visez plutôt la qualité du message ou l'esthétique de la photo?
Ben en fait, l'idée, évidemment, la qualité de la photo, elle est importante, mais c'est aussi le message qu'elle veut transmettre. Il y a des photos, en fait, comme c'est sur les réseaux sociaux, donc évidemment, il peut avoir des photos qui ont été faites avec des portables, d'autres qui ont été faites avec d'appareils photo. Donc du coup, en fait, là, la qualité, on ne va pas la juger de la même façon, mais c'est plus en fait le message de la photo. On a pour l'instant des très belles photos, en fait, très créatives, donc vraiment, on vous invite à y participer.
Voilà, donc on fait appel à la créativité, on va
dire
ça.
C'est ça, c'est plutôt la créativité, c'est ça.
Alors, on va revenir donc à cette Student Week, l'International Student Week, et les Erasmus Days. Donc on a déjà démarré cette période.
Oui, mais c'est bon. La semaine internationale commence le 15, du 15 au 22 novembre. Mais on a lancé la première activité à partir du 12 octobre, justement, pour s'inscrire aux activités des Erasmus Days.
D'accord. Alors, en novembre, on pourra assister à quoi ? On pourra vivre quel type de moment ?
Donc, la semaine commencera avec la soirée d'ouverture, le jeudi 15 novembre, à 18h30 à la mairie de Lille. Donc c'est un accueil officiel par la mairie. Donc il y a un programme aussi un petit peu festif, donc avec une compagnie de théâtre qui va faire une représentation et le cocktail ensuite qui sera animé par la fanfare universitaire de l'école centrale de Lille. Et donc pour cette soirée, il faut s'inscrire en ligne. Donc tous les étudiants peuvent s'inscrire en ligne donc sur le site de l'ISW, donc isw.univ-lille.fr. Et donc après cette soirée d'ouverture, le 16 commencera aussi une exposition à la bibliothèque universitaire SHS à Pont-de-Bois. Donc c'est une exposition du photographe Jean Larive sur le quotidien des étudiants réfugiés de l'Université de Lille.
Alors c'est vrai que ces étudiants, on les voit parfois, on les a vus aussi apprendre à la Maison des Langues, par exemple. Là, ils sont pour certains dans l'université, dans leurs cours, dans leur discipline. On les a vus à Radio Campus aussi, bien sûr. On les a photographiés là, dans les espaces, en train de jouer, etc. Donc, ils font partie maintenant de la vie quotidienne du campus, on peut dire ça comme ça.
Oui, en fait, justement, l'idée de l'exposition, c'est de fêter la mise en place de ce dispositif d'accueil des étudiants réfugiés. Donc, justement, en fait, pour fêter le fait qu'ils ont intégré la communauté universitaire.
Voilà, donc on leur demandera un jour où ils en sont de leurs études, de leurs envies, de leurs rêves, de leurs passions et comment ils voient l'avenir. Hein, bien sûr, c'est aussi ça, l'intérêt de faire des études, c'est aussi de penser à long terme. Est-ce qu'on peut les considérer un peu comme Erasmus ou pas, ils ont le même état d'esprit ou vraiment ils sont plutôt dans des contraintes terre à terre qui font que d'abord il y a d'autres priorités que de penser à aller faire des études tranquillement à l'étranger?
Disons qu'ils sont considérés des étudiants de l'université, donc comme tout étudiant de l'université, ils peuvent effectuer une mobilité, mais voilà, c'est pas exactement le même. Pour nous, en fait, ce sont des étudiants internationaux, pareil que nos étudiants internationaux qui viennent à l'échange, qui viennent à titre individuel, qui viennent dans le cadre d'un doctorat, donc voilà, enfin pour nous c'est le même public, et après voilà, c'est à eux de décider si plus tard ils vont effectuer une mobilité à l'étranger, s'ils vont rester à l'université de Lille, s'ils vont rester en France, donc voilà.
Donc là, l'université Lille, il y a la fusion de trois universités. Hein, on est dans une grosse université, pratiquement 70 000 étudiants, beaucoup de professeurs, hein, beaucoup de personnel, technique, services, etc. Est-ce que pour vous, hein, c'est une force d'attraction pour les étudiants étrangers qui veulent participer à ce programme Erasmus+, le fait qu'il y ait une grosse université avec beaucoup d'étudiants?
Oui, je pense que c'était un des objectifs aussi, la fusion. C'était la visibilité de l'Université de Lille au sein de l'espace européen, mais aussi dans le monde. Donc maintenant, en effet, on se positionne comme une des plus grandes universités en France. Vous l'avez dit, beaucoup de professeurs, ce qui veut dire donc aussi beaucoup de recherches, beaucoup de brevets, d'éventuellement beaucoup de rayonnement au niveau de la recherche aussi. Donc c'est pour ça que ça a peut-être aussi attiré aussi bien les étudiants, mais aussi des personnels pour venir à l'Université de Lille. Et je pense que du coup, les étudiants à l'international vont avoir être peut-être plus sensibles quand ils vont regarder les classements, ce genre de choses qui sont qualitatifs, en tout cas on l'espère, mais voilà, donc oui.
Est-ce qu'on peut faire un doctorat dans le cadre Erasmus?
Oui.
On peut faire, oui, un séjour d'échange de recherche dans le cadre de ton doctorat.
C'est compliqué ou non? Ça va?
On a des accords qui concernent les doctorats, donc non, c'est pas si compliqué.
Donc on peut profiter, si on veut faire une recherche avec une partie importante à traiter dans un pays, de faire des études aussi, la recherche sur place, avec cette bourse de mobilité.
Oui, après, si l'accord avec l'université concerne bien le domaine de recherche concerné du doctorant, oui, bien sûr, c'est possible.
Voilà. Si on veut des renseignements, alors il y a ces journées Erasmus, sinon est-ce qu'il y a un lieu centralisé où les étudiants qui veulent s'informer des dispositifs, des aides, etc.
Donc il y a des coordinateurs relations internationales dans chaque composante, faculté, département, qui peuvent renseigner les étudiants ou les doctorants. Et après, oui, donc on a aussi notre direction qui se trouve sur le campus Cité Scientifique, bâtiment A3.
D'accord, vous n'avez pas déménagé alors? C'est toujours le même endroit depuis quelques années.
Les collègues de droit et santé.
Oui, ils ont déménagé.
Voilà, ils sont venus sur Cité Scientifique.
Ils ont emménagé, voilà. Voilà. Donc, on a bien compris, hein, on peut dire que beaucoup d'étudiants maintenant sont intéressés, vivent dans certains pays avec beaucoup de plaisir. Je pense à des gens qui me racontent leur séjour parfois en Espagne, ils ont l'air de vraiment bien rigoler. Ou même en Roumanie, où c'est quand même un pays qui n'est pas forcément évident au départ à choisir, mais où il y a beaucoup d'étudiants français là-bas, étonnamment. Après, évidemment, l'Irlande, ça garde son charme aussi pour certains de nos étudiants à nous qui interviennent le matin. Et d'autres, comme je l'ai dit, en Corée du Sud ou ailleurs, qui se retrouvent. Alors, parfois isolés, mais parfois aussi à deux, trois, quatre de la même région. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils ont tendance à se regrouper, mais ça peut être parfois une petite sécurité de ne pas être seul.
Oui, enfin, en général, il y a plusieurs étudiants qu'on envoie dans nos partenaires. Hein, c'est très rare qu'ils partent tout seuls. En tout cas, on essaye de les mettre en relation. Si par exemple un étudiant de l'IAE et un étudiant de la faculté de droit partent dans la même université, on va essayer de les mettre en relation pour que justement arriver sur place soit pas trop difficile. Après, les étudiants qu'on envoie, en tout cas, en général, sont assez débrouillards. C'est aussi pour ça qu'on leur demande pour l'Europe en deuxième année et en Europe à partir de la L3. Donc, c'est quand même des jeunes adultes qui savent se débrouiller. En tout cas, on l'espère. Et la mobilité va forcément les amener à se découvrir, en tout cas. Juste, on n'a peut-être pas parlé de la soirée de clôture, si je peux me permettre de mettre le point d'orgue, en fait, sur cette semaine internationale qui aura lieu le 22 novembre. Donc, à la salle des fêtes de FIB. Donc là, c'est vraiment un événement festif avec, on attend donc 600 étudiants. Donc encore une fois, avec inscription. Donc si vous entendez ce message, inscrivez-vous. Avec voilà, beaucoup de musique, un petit cocktail bien sûr. Voilà. Donc voilà, je voulais juste le rappeler, en tout cas, l'événement festif qui clôture la semaine internationale.
Voilà, et puis s'il fallait encore donner, pourquoi pas inciter, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant comme intérêt de ce dispositif? On en a parlé tout à l'heure, mais s'il fallait choisir une ou deux idées fortes en disant « vous pourriez ».
Pour partir à l'étranger, je crois que c'est vraiment une idée de travailler à un projet. Ça commence pas du jour au lendemain, c'est vraiment la construction d'un projet à l'international. Et c'est pour ça qu'on vous invite fortement à participer à la semaine internationale, parce que pendant toute la semaine, il y a des réunions d'information, il y a des ateliers, il y a plusieurs activités qui vont en fait vous permettre de découvrir l'idée de l'international et surtout en fait les universités partenaires, l'Université de Lille. Donc toutes les informations sont sur le site web iswuniv-lille.fr.
Bien, merci Aurélie Sardines, merci Mathilde Modène et merci Antoine Sujita. Au revoir et merci. Bon Erasmus Days.